Non, simple réflexion, je regarde ce qu'a fait le préfet Bolloté. On dirait un coutumier du fait. Déjà en Algérie, si j'ai bien compris ce qui a été dit, il était, comment dirais-je encore, il trafiquait quelque part les chiffres ou le nombre de personnes qu'il arrêtait, qui rentraient, qui sortaient, pour pouvoir donner au gouvernement français des informations qui étaient fallacieuses. Et il arrive en poste en Guadeloupe. Et je ne sais pas s'il imagine vraiment des choses, enfin je ne sais pas, selon vous dire, il imagine des choses, il pense que ça pourrait être ça, puis on profite pour pouvoir stigmatiser un certain nombre de personnes, et voilà, bon ben c'est en quelque sorte, c'est lui et lui tout seul qui déclenche tous ces événements, si j'ai bien compris.
Alors, je ne dirais pas ça comme ça. Je crois que c'est Monsieur Lafortune, si je vois bien. Je ne dirais pas ça comme ça. Alors, il faut bien comprendre, hein, quand on ramasse tout dans un exposé, même si je fais attention à ce que je dis, il faut bien saisir. Un préfet, je ne rends pas le préfet responsable, comment dire, l'unique et le seul responsable de tout. Mais il faut bien comprendre la chaîne des responsabilités et la chaîne de l'emboîtement des événements. Et de ce point de vue-là, effectivement, il joue un rôle clé. On a parlé de Foccart, on a parlé de Gaulle lui-même, on a parlé du général Kilikini, on a parlé du ministre Biot. L'homme clé dans la répression qui va avoir lieu en mai 67 à Pointe-à-Pitre, la répression sanglante, celle-là, c'est Bolloté. Et Bolloté, pas Bolloté parce que Bolloté, mais Bolloté parce qu'il représente une expérience coloniale. Il représente une méthode d'intervention. Il représente une façon de comprendre les choses et une façon de traiter les choses. Et en même temps, il a une latitude relativement large en tant que préfet, mais préfet de la Ve République, à un moment précis de l'histoire de la France et de la Guadeloupe. Et il a en même temps, si vous voulez, une capacité d'intervention. Il a un périmètre d'intervention qui est relativement important. Donc, ce n'est pas lui qui provoque les événements directement de Basse-Terre. Encore une fois, j'ai bien expliqué que les événements de Basse-Terre, c'est une réaction populaire contre le racisme ou contre ce qu'on ressent comme raciste. Et ça, nous sommes dans notre culture. Il faut regarder les événements qui se sont passés dans la culture guadeloupéenne avant Basse-Terre, bien avant Basse-Terre, même avant le début du siècle, avant qu'il existait un mouvement autonomiste ou indépendantiste. On a toujours réagi à ce qui pouvait être quelque chose qui ressemblait au mépris, à l'abaissement, voilà, au mépris, au déni, au crachat. On a toujours réagi à ça. Et donc, là, dans le contexte bastérien, l'acte de Sniensky, l'acte de provocation de Sniensky, même si on rentre dans le détail, l'acte de provocation ici ne passe pas. Le mensonge de Bolloté ne passe pas. L'exfiltration de Stinsky ne passe pas. La fraude vis-à-vis d'Archimède ne passe pas. Et c'est tout ça qui ne passe pas. C'est tout ça qui ne passe pas et qui provoque cette révolte-là, qu'on pourrait d'ailleurs approfondir l'analyse du point de vue sociologique sur la région de Basse-Terre, ça c'est encore autre chose. Et sur Pointe-à-Pitre, pour répondre à votre question de façon plus précise, sur Pointe-à-Pitre, le préfet se prépare, parce que là, il ne sera pas surpris. Il ne sera pas surpris, et c'est pour ça que très vite, son intention, c'est de dire que s'il y a une pression sur les CRS, on déclenche le feu. Donc je fais une anticipation sur le début des événements de Pointe-à-Pitre. Les événements de Pointe-à-Pitre, naturellement, n'étaient absolument pas préparés, ni par le GONG, ni par aucune organisation politique. Ils n'étaient absolument pas préparés. Les gens réagissent spontanément, avec, bien sûr, d'autres jeunes qui sont aussi venus. Très vite, et là aussi, c'est une question qui est quasiment à la fois sociale et à la fois culturelle, et qui vont très vite s'armer de conques de lambi et s'armer de bouteilles, et qui vont très vite donner une tournure très violente à la contre-manifestation. Et pourquoi les gens ont-ils réagi? Puisque au départ, il y a une tension lourde, mais sur la question des négociations salariales, pas sur une question ni raciale ni autre. Pourquoi y a-t-il les gens vont-ils réagir? Parce que le patron des patrons aurait dit, en fait, il n'a pas dit ça, aurait dit, lorsque les nègres ont fait reprendre le travail. Encore une parole raciste qui est partie sous forme de rumeur. Et encore parce que, à Pointe-à-Pitre, les CRS protègent sa sortie. Les CRS protègent sa sortie. Il sort sous l'encadrement des CRS. On nous refait le coup de bastère. C'est-à-dire qu'il y a là donc tout un ensemble d'éléments qui convergent à créer une situation également de révolte, mais qui, elle, va prendre une tournure violente tout de suite. Tout de suite, et également qui va monter donc en pression très rapidement. Et qui va donc déclencher cet ordre de tir sans sommation. Je le précise, ça a été montré et démontré au procès de 68. Ordre de tir sans sommation et surtout rappel des Pumas et climat de répression, climat de fusillade et d'exaction à vue pendant 2 jours sur Pointe-à-Pitre, sans qu'il y ait eu couvre-feu, sans qu'il y ait eu jamais également aucune des dispositions prises pour confiner les gens chez eux. Enfin, ça, c'est une autre affaire sur laquelle on reviendra. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.